Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Et Kabadou avec vous en direct de Washington pour Le Monde aujourd'hui, édition de 19h30. Bonsoir à tous, voici les titres. En République démocratique du Congo, un incendie d'un entrepôt de la commission électorale à Kinshasa emporte près des trois quarts du matériel électoral. Au Togo, les élections législatives auront bel et bien lieu le 20 décembre prochain, a affirmé le ministre de la fonction publique. Au Mali, plusieurs dizaines de civils Touareg tués par des djihadistes présumés dans le nord-est du pays. John Bolton, conseiller à la sécurité nationale des États-Unis, a dévoilé sa stratégie africaine. Ne manquez pas dans 10 minutes l'actualité économique et les sports, mais tout d'abord le journal. Un incendie s'est déclaré jeudi dans l'entrepôt de la Commission électorale nationale indépendante à Kinshasa. Corneille Nanga, le président de la CENI, nous fait le point.
Le feu a consumé les matériels de 19 sur 24 communes de Kinshasa. Ce qu'il faut néanmoins dire, il n'y a pas eu perte en vies humaines. Les matériels estimés à ce moment, c'est près de 8000 machines à voter sur les 10368 prévues pour Kinshasa. C'est 3774 isoloirs sur les 8887 prévus. C'est 552 kits bureautiques sur les 8887. Sans minimiser la gravité de cette situation dommageable, la CENI s'emploie pour la poursuite du processus conformément à son calendrier. S'agissant de Kinshasa, ville à laquelle était destiné le plus grand lot de matériel brûlé, des dispositions utiles sont prises après évaluation technico-opérationnelle préliminaire que j'ai conduit personnellement ce matin afin de garantir là aussi la poursuite sans faille du processus électoral.
Le président Museveni rappelle alors Pierre Nkurunziza, le président ougandais, demande à son homologue burundais de respecter la communauté d'Afrique de l'Est qui est médiatrice dans la crise que traverse le Burundi et de dialoguer avec son opposition. Bujumbura a provoqué par son boycott le report d'un sommet du bloc fin novembre avant d'exiger la tenue d'un sommet extraordinaire pour ne pas traiter que de la question du conflit ouvert entre le Burundi et le Rwanda. Les relations sont tendues entre les deux pays. Au Cameroun, le chef de l'État, Paul Biya, a décidé l'arrêt des poursuites engagées contre 289 détenus de la crise anglophone. Ils avaient été arrêtés pour des délits commis dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest du pays. Le communiqué de la présidence ne précise pas les noms des bénéficiaires de cette mesure. Une audience à huis clos s'est tenue ce jeudi à La Haye pour débattre de la détention de l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé, ancien leader des Jeunes Patriotes. La Chambre d'instruction de la Cour pénale internationale veut évaluer les risques que présenterait une éventuelle remise en liberté provisoire de ces deux responsables politiques ivoiriens. Les audiences doivent reprendre demain vendredi à 10h, heure de La Haye. En Côte d'Ivoire, l'investiture du maire élu du quartier des affaires du Plateau à Abidjan a été reportée après un incendie à la mairie. Cette commune a fait l'objet d'une âpre bataille électorale finalement remportée par l'opposant Jacques Ewuo qui concourait pour le PDCI. Les élections législatives au Togo se tiendront bel et bien le 20 décembre prochain, affirmé le ministre de la fonction publique Gilbert Bawara, malgré la crise politique et les appels de l'opposition à reporter le scrutin. Nathalie Barge.
Le processus électoral est irréversible, a déclaré le porte-parole du gouvernement hier soir, précisant que les missions d'observation de la CEDEAO et de l'Union africaine seront déployées cette semaine. Gilbert Bawara a déploré les violences lors des manifestations samedi et lundi dans le pays qui ont fait 4 morts selon le gouvernement, tandis que l'opposition parle de 6 décès. Une enquête est annoncée. Monsieur Bawara a par ailleurs accusé certains leaders politiques d'inciter la population à agresser et attaquer les forces de l'ordre. L'opposition qui boycotte ces législatives a appelé à manifester du 8 au 18 décembre pour exiger l'arrêt du processus électoral. Ces manifestations ont été interdites alors que la campagne a débuté le 4 décembre. Dans un communiqué conjoint ce jeudi, l'ONU, l'Union européenne, les États-Unis, la France et l'Allemagne affirment suivre avec préoccupation les derniers développements de la situation au Togo et souligne la nécessité d'éviter toute forme de violence.
Au Mali, dans la région de Ménaka, 42 civils ont trouvé la mort suite à une attaque attribuée au groupe terroriste. Les djihadistes qui sévissent dans cette partie du territoire malien ont fait des exécutions sommaires, brûlé des campements avec des enfants et des personnes âgées. Kassim Traoré.
C'est dans la nuit du 11 décembre 2018 que des bandits armés sur une vingtaine de motos ont fait irruption dans plusieurs localités du sud de la région de Ménaka et ont exécuté des civils de la communauté Idasaka. C'était entre l'ouest de la localité de Tinawab à 20 km de Ménaka. Selon les responsables des groupes armés du MSA, 42 civils ont été exécutés dans leur campement, parmi lesquels il y a des enfants de moins de 8 ans. Les assaillants après leur forfait, sont répartis vers la frontière nigérienne après avoir allumé un feu de brousse. Le mouvement pour le salut de l'Azawad MSA a rapidement dépêché des troupes sur place pour faire le constat et venir en aide aux victimes. C'est ainsi que 3 blessés et des rescapés ont pu être acheminés à Ménaka. Des troupes des forces armées du Mali et de certains mouvements signataires ont aussi rejoint les lieux des massacres. Ces troupes ont aidé à contenir le feu de brousse. Le gouverneur de la région de Ménaka, Daouda Maïga, condamne avec la grande fermeté ces crimes abominables et présente ses condoléances les plus attristées aux familles endeuillées. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
La force anti-djihadiste du G5 Sahel va reprendre ses opérations dès le début de l'année prochaine, voire avant, a estimé ce jeudi le chef de l'état-major des armées françaises, le général François Lecointre. Les groupes djihadistes en grande partie chassés du nord du Mali ont depuis regagné du terrain, en particulier dans le centre du pays, et le phénomène s'étend au Burkina Faso et au Niger voisin, se mêlant souvent à des conflits intercommunautaires. Par ailleurs, quelques 52 000 Nigériens ont été forcés à se déplacer depuis janvier dans les régions de Tillabéri et de Taoua au Niger, une zone instable frontalière du Mali et théâtre de nombreuses incursions de groupes djihadistes.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le conseiller à la sécurité nationale du président Donald Trump dévoile la stratégie américaine en Afrique. Dans un discours ce jeudi à Washington, John Bolton a annoncé une série de mesures pour contrer la Chine et la Russie sur le continent. Abdourahmane Dia.
Le conseiller du président américain s'en est pris à la Chine qui a intensifié sa présence économique et militaire en Afrique. John Bolton accuse Pékin de pratiques prédatrices qui freinent la croissance économique et l'indépendance du continent. Il accuse Pékin de favoriser la corruption et de tenir en otage les pays africains à travers ses prêts. Pour M. Bolton, la présence de plus en plus marquée de la Chine et de la Russie constitue une réelle menace aux intérêts sécuritaires des États-Unis. « Nous ne sommes pas de ces États qui promeuvent la dépendance économique », a-t-il dit. Il ajoute que l'aide américaine fera progresser les intérêts des États-Unis et aidera les pays africains à devenir autonomes. Alors que le département de la Défense a annoncé une réduction de la présence militaire américaine en Afrique, John Bolton a estimé que la stratégie gagnante pour Washington se trouve dans un partenariat qui favorise le développement économique en Afrique et crée des emplois ici aux États-Unis.
Toujours aux États-Unis, Donald Trump a riposté aux accusations du procureur spécial en affirmant dans une série de tweets n'avoir jamais demandé à son avocat Michael Cohen d'enfreindre la loi. Un tribunal fédéral de New York a condamné mercredi l'ancien avocat et homme de confiance du président américain à 3 ans de prison. Le Parlement britannique se prononcera sur l'accord du Brexit conclu par Theresa May avec l'Union européenne entre le 7 et le 21 janvier 2019 après le report du vote qui était prévu cette semaine, a annoncé le gouvernement. La première ministre britannique a échappé hier à une motion de censure du Parlement. Le mouvement des Gilets jaunes en France, qui dure depuis plusieurs semaines, a inspiré divers mouvements en Belgique, aux Pays-Bas, en Allemagne ou encore en Pologne. En Serbie, un député de l'opposition a revêtu un gilet jaune au Parlement pour protester contre les prix de l'essence. Des photos de jeunes gens en gilet jaune dans une boîte de nuit sénégalaise sont devenues virales en Afrique de l'Ouest. En Afrique du Sud, quelques gilets jaunes ont fait leur apparition lors de manifestations quotidiennes contre la mauvaise qualité des services publics. Au Proche-Orient, le Liban devrait se doter d'un gouvernement d'ici la fin de l'année, a déclaré le Premier ministre Saad Hariri, après 6 mois de blocage et de négociations ardues sur fond de division entre différents blocs politiques sur la composition du nouveau cabinet. À la mi-novembre, M. Hariri avait accusé son grand rival politique, le mouvement chiite du Hezbollah, d'entraver la formation d'une nouvelle équipe ministérielle. matériel. Fin des consultations de paix sur le Yémen en Suède, le chef de l'ONU annonce jeudi un accord difficilement négocié entre belligérants pour faire provisoirement taire les armes dans plusieurs régions dévastées de ce pays au bord de la famine. Le secrétaire général Antonio Guterres et son employé spécial Martin Griffiths œuvrent à une solution durable après 4 ans de guerre qui ont fait environ 10 000 morts et menacent jusqu'à 20 millions de personnes de famine. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. L'actualité économique en Afrique et dans le monde, on en parle dans la Minute Éco qui vous est présentée ce soir par Nani Talani.
Le Nigeria engage un procès contre Shell et Eni pour un montant de 1,1 milliard de dollars dans le cadre d'un accord sur un champ pétrolier signé en 2011. Selon l'accusation, les sommes d'argent prétendument versées au Nigeria l'ont été sur le compte d'une société contrôlée par Dan Etete, ancien ministre nigérian du pétrole et utilisée pour des pots de vin. La Côte d'Ivoire annonce l'ouverture de 2 nouvelles lignes directes, Abidjan-Washington et Abidjan-Montréal. Le but est d'accroître l'apport des transports dans son PIB, qui se situe entre 7% et 12%. La future ligne Abidjan-Washington sera la 2e liaison aérienne directe avec les États-Unis, après l'ouverture, il y a quelques mois, de la 1e liaison reliant Abidjan et New York, effectuée par la compagnie Ethiopian Airlines. Enfin, la Guinée va recevoir 500 millions d'euros de l'Agence africaine de développement pour soutenir jusqu'en 2020 la mise en œuvre du plan national de développement économique et social. Ces fonds devraient être investis dans plusieurs secteurs clés comme l'éducation, l'agriculture, la décentralisation, l'énergie et l'eau. Le financement devrait aussi prendre en compte les programmes de développement communautaire ainsi que l'amélioration de la mobilisation des ressources internes à travers le renforcement des capacités techniques.
Place à présent notre page sportive qui nous est présentée ce soir par Yacouba Ouedraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir Ekia, bonsoir à tous.
L'Égypte prête à sauver la CAF.
L'Égypte est capable d'organiser la compétition et on sera fier de le faire. Le peuple égyptien est toujours prêt pour des choses pareilles. On a des structures au plus haut niveau et on a déjà organisé des compétitions, a déclaré Ashraf Sobhi, ministre égyptien des sports. Soucieux de ne pas faire de l'ombre au Maroc, le pays de Mohamed Salah avait déclaré la semaine dernière qu'il n'était pas candidat pour accueillir le tournoi à la place du Cameroun. Mais finalement, le Maroc a annoncé hier qu'il ne se portera pas candidat. L'Égypte a déjà organisé 4 fois la CAN, la dernière en 2006. Les prétendants ont jusqu'à demain minuit pour déposer leur dossier de candidature.
Alain Giresse, nouveau sélectionneur de la Tunisie.
Oui, 2 mois après le départ de Faouzi Benzarti, la Fédération tunisienne de football a annoncé le recrutement du technicien français qui s'est engagé jusqu'en 2020. Sans contrat depuis plus d'un an, l'ancien sélectionneur du Gabon reprend ici du service. La dernière fois qu'on l'a vu sur un banc, c'était avec le Mali en septembre 2017. Au sortir d'un match nul face au Maroc, il a jeté l'éponge. Passé aussi par le Sénégal, Alain Giresse va tenter d'apporter une stabilité sur le banc des Aigles de Carthage, qualifié pour la CAN 2019.
L'Espérance Tunis connaît son adversaire au Mondial des clubs.
Et oui, samedi, le champion d'Afrique en titre entrera en lice en quart de finale face au club émirati d'Al Ain. Le représentant du pays hôte, les Émirats Arabes Unis, a validé son billet en écartant Wellington au tir au but lors du premier tour. Pourtant mené 3-0 à la mi-temps, les locaux ont complètement renversé la vapeur grâce notamment à un but du Malien Tongo Doumbia. Le club tunisien est donc prévenu.
Le Sénégal rejoint l'Égypte à la finale de la CAN de football de plage.
Tenant du titre, les Lions de la Teranga ont tenu leur rang en écartant le Maroc 7-2 en demi-finale à Sharm el-Cheikh. Le Sénégal fait ainsi coup double car il valide du même coup son billet pour le mondial de la discipline. Demain, en finale, les Sénégalais retrouveront le Nigeria qu'ils avaient battu au même niveau il y a 2 ans.
Europa League ce soir.
Séville et l'AC Milan sont en ballottage favorable pour se qualifier pour les 16e de finale s'ils terminent le travail respectivement face à Krasnodar et l'Olympiakos. A contrario, les Grecs devront battre Milan par au moins 2 buts d'écart pour se qualifier. Dans le groupe B, le dernier ticket en jeu se jouera entre le Celtic et Leipzig. Le club écossais sera qualifié en cas de victoire ou de nul contre Salzbourg.
Merci Yacouba.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Et Kabadou, toujours en votre compagnie, vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. À présent, les dossiers du jour, et on commence par les États-Unis qui vont accroître leur investissement en Afrique pour contrecarrer les offensives chinoises et russes. C'est ce que déclare John Bolton, qui était l'invité du groupe de réflexion Heritage Foundation pour discuter de la stratégie africaine de l'administration Trump. Compte rendu, Abdourahman Dia.
Washington n'entend pas laisser le champ libre à Moscou et à Pékin qui mènent des offensives en Afrique. John Bolton, conseiller à la sécurité nationale.
Nos grands rivaux que sont la Chine et la Russie développent rapidement leur influence financière et politique à travers l'Afrique. Ils investissent délibérément et de façon agressive pour devancer les États-Unis sur le continent. Entre 2016 et 2017, l'investissement direct chinois a atteint 6,4 milliards de dollars.
La Chine en a pris pour son grade. John Bolton l'accuse de favoriser la corruption en Afrique en facilitant des prêts à des pays qui ne respectent pas les normes démocratiques et les droits humains, qualifiant de prédatrices ces pratiques qui créent une relation de dépendance économique entre Pékin et le continent.
China uses bribes.
La Chine utilise des pots de vin, des accords opaques et utilise la dette pour tenir les États africains dépendants des demandes et de la volonté de Pékin. Ces investissements vont avec la corruption et ne respectent pas les mêmes normes environnementales et éthiques que les États-Unis.
John Bolton donne l'exemple de la Zambie qui doit 6 à 10 milliards de dollars à la Chine. Conséquence, Pékin pourrait prendre le contrôle de la Compagnie nationale d'électricité pour rentrer dans ses fonds. En contraste, Washington propose un partenariat gagnant-gagnant qui favorise les intérêts économiques et sécuritaires des États-Unis et le développement de l'Afrique. Mais John Bolton insiste sur le bon usage de l'argent du contribuable américain.
Désormais, nous n'allons plus tolérer cette pratique de l'aide de longue durée sans résultat. Il n'y a pas d'assistance sans responsabilité ni d'aide sans réforme.
John Bolton a été plus clair sur l'utilisation de l'argent du contribuable. Selon lui, l'administration américaine ne va plus permettre que les impôts durement payés par les Américains servent à aider des autocrates corrompus à remplir leurs coffres aux dépens de leur population ou pour commettre de graves violations des droits de l'homme. John Bolton a annoncé la mise en place d'une politique dite « Afrique prospère » qui met l'accent sur l'investissement, la croissance économique et une amélioration de l'environnement des affaires sur le continent.
Dans la prochaine édition de Votre Santé, Votre Avenir, nous parlerons de la pneumonie.
Les personnes atteintes de cette maladie respiratoire ont les poumons remplis de pus et de liquide. Elle est responsable de 15% des décès des enfants de moins de 5 ans dans le monde.
Pour en parler, nous recevrons le docteur Obin Kasongo, pédiatre en RDC. Il nous donnera des astuces pour éviter la maladie.
Nous écouterons aussi le docteur Jean-Fidèle Ilunga du ministère congolais de la Santé. Il nous parlera des politiques publiques qui peuvent être efficaces contre la maladie.
Votre Santé, Votre Avenir est un programme de VOA Afrique diffusé les samedis, dimanche et mercredi à 8h30, temps universel.
Ne manquez pas le rendez-vous.
Campagne électorale en République démocratique du Congo, encore des morts parmi les soutiens du candidat de l'opposition Martin Fayulu. Une personne a été tuée à son arrivée à Kalemi, 3 selon l'équipe de campagne du candidat de la coalition Lamuka. Martin Fayulu, qui évoque également les 2 personnes tuées la veille à son arrivée à Lubumbashi, appelle au calme et promet saisir la justice et l'ONU. Les détails avec Thierry Kabundi de Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa.
Les 3 candidats favoris à la présidentielle du 23 décembre 2018 ont multiplié des accusations d'intolérance politique les uns envers les autres. Félix Tshisekedi, qui n'a pas pu se rendre mercredi à Butembo pour tenir son meeting, accuse la coalition Lamuka de Martin Fayulu d'avoir planifié la perturbation de cette activité.
Nous avions déjà commencé à nous diriger sur la route de Butembo et le contingent de police, à un moment, nous a fait signe qu'il allait s'arrêter là. Et ils nous ont fortement déconseillé de partir seul, sans protection, d'autant plus que les perturbateurs de la Lamuka ont des relais dans les Maïmaï et qu'ils vont sûrement donner des coups de fil pour qu'on nous coupe la la route nos amis de la Mouka. Je ne sais pas pourquoi ils s'en prennent à nous, alors que nous sommes censés avoir un adversaire commun qui est le pouvoir. D'un côté, ils jouent aux victimes au Katanga, mais de l'autre, ce sont eux les bourreaux.
Faux, réplique Pierre Lumbi. Le directeur de campagne de Martin Fayulu évoque notamment la situation vécue par son candidat à Lubumbashi et à Kalemi pour affirmer que c'est bien sa coalition qui est victime d'intolérance politique.
C'est nous qui sommes victimes et c'est nous qu'on accuse. Aujourd'hui, ce n'est pas les militants de l'IDPS qui sont morts. C'est la population encadrée par la Mouka. Je pense qu'il se trompe d'ennemi. J'ai lancé un appel pour que la population ne cède pas à la violence, à la provocation. Nous sommes des non-violents et nous les resterons. Nous condamnons les groupes armés. Et s'il y a des gens qui ont empêché Cash de faire ces meetings, nous les condamnons publiquement et nous attendons qu'ils condamnent ce qui s'est passé à Kalemi, à Lubumbashi.
Accusé d'utiliser l'appareil de l'État pour favoriser son candidat au détriment d'autres, le Front commun pour le Congo s'en défend à son tour et accuse les partisans de Martin Fayulu de déchirer les affiches de son candidat Ramazani Shadari et de ses candidats députés nationaux. Félix Kabange Numbi est membre du comité stratégique du FCC.
Le FCC, en tant que coalition politique, nous nous occupons des affaires politiques. Nous ne pouvons pas ici dire qu'on a autorisé à qui que ce soit de tirer sur quelqu'un. Si jamais il y a eu un policier qui aurait tiré, je pense que les services sont là. Les coupables seront traduits en justice. Mais nous, ce que nous disons, c'est justement cette succession de provocations. Ils veulent à tout prix qu'il y ait des incidents.
Dans un communiqué rendu public à Kinshasa, la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies, Leila Zerougui, a déploré les pertes en vies humaines et demandé aux autorités congolaises de prendre les mesures nécessaires pour éviter de nouveaux incidents. Les Kinois interrogés par VOA Afrique déplorent pour leur part le fait que la violence et l'intolérance aient pris le dessus sur le débat d'idées censé caractériser cette période de campagne électorale.
C'est très regrettable. Hein? Nous avions besoin de programmes de chaque candidat. C'est ce qui peut donner l'occasion à un électeur de choisir un candidat. Non les attaques, non la violence.
C'est vraiment déplorable parce que nous sommes à la troisième expérience des élections dans notre pays. On ne devait pas assister à des problèmes comme ça. Je fais appel à toute la population congolaise d'être trop vigilant. Il ne faut pas suivre les incitations au tribalisme surtout.
Kinshasa, Thierry Kambundi de Top Congo FM pour VOA Afrique.
Salut les amis, c'est Yakuba Ouedraogo. Tout le lundi soir, VOA Afrique met le sport à l'honneur. Les résultats, les analyses et vos commentaires chers auditeurs. Rendez-vous en direct dans Sporama à 19h, temps universel. Pour participer, c'est très simple. Vous pouvez appeler en direct ou laisser vos commentaires et numéro de téléphone sur notre page Facebook. Nos spécialistes du sport sur le continent sont là pour vous apporter leurs éclairages. À très vite sur le terrain de VOA Afrique.
Tension entre le Burundi et le Rwanda. La semaine dernière, le président Pierre Nkurunziza a accusé le Rwanda de former des jeunes réfugiés pour attaquer le Burundi. Il a même parlé de guerre ouverte entre les deux pays et a appelé à la tenue d'un sommet régional pour discuter de cette crise. Placide Magambo a recueilli la réaction d'Olivier Ndungihere, secrétaire chargé de la coopération au ministère des Affaires étrangères à Kigali.
La question qui se pose n'est pas une question des relations entre le Rwanda et le Burundi, c'est une question interne au Burundi qui doit être réglée par les Burundais eux-mêmes avec le soutien du médiateur, du facilitateur de la communauté de l'Afrique de l'Est. Et donc nous disons que toute diversion de la part du Burundi n'a lieu d'être. Donc nous, on soutient les efforts de la région pour la résolution, enfin pour le dialogue inter-burundais, la résolution pacifique de la situation Burundi. Et nous ne pensons pas que ce pays doive nous embarquer dans une diversion qui n'a pas lieu d'être.
Le président de la communauté des pays de l'Afrique de l'Est, Yoweri Museveni, a répondu à la lettre adressée par le président burundais exigeant un sommet régional sur le conflit ouvert avec son ennemi rwandais. Qu'en dites-vous?
Le Rwanda est un des pays partenaires de la communauté de l'Afrique de l'Est et donc nous soutenons le médiateur et le facilitateur dans leurs tâches. Et nous accepterons toute recommandation pour pour que la situation, enfin pour qu'une solution soit trouvée à la situation burundi.
Olivier Ndungirere, chargé de la coopération au ministère des Affaires étrangères à Kigali.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
Au Niger, colère des réfugiés soudanais pris en charge par le Haut Commissariat des réfugiés. Ils sont depuis mardi en sitting devant les locaux de l'organisme onusien pour exiger des explications sur leur situation, notamment le séjour qui se prolonge indéfiniment selon eux. Le point avec notre correspondant Abdulrazak Idrissa.
Ils sont une centaine en majorité des Soudanais qui font le pied de grue à la devanture de la représentation du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés à Niamey depuis mardi dernier. Tous veulent être fixés sur leur situation. Younoussa Ibrahim est leur porte-parole.
Hasser Agadez, il m'a fait l'interview, puis il m'a amené ici pour me trouver la solution que j'allais chercher. D'abord, je suis jusqu'à venir ici et moi, je fais un an, ça n'a aucune solution. Hier, le représentant de HCR, Mme Alexandre, visitait à nous, il a dit, nous, par rapport aux Soudanais, on a parlé de migration dans le territoire de Niger. Ok, si on veut accepter de rester ici, manger et travailler, ça c'est nous devoir. Si c'est pas ça, chacun décide pour quitter le Niger toute seule. C'est pas par rapport à l'autre ou bien de son responsabilité.
Ce qu'ils demandent, c'est donc que le HCR les achemine comme les Érythréens ou les Éthiopiens par exemple en Europe. Mais la représentante du HCR au Niger leur réplique, ils n'ont pas le même statut. Alexandra Morelli.
Il y a un projet de l'ETM qui est lié à un accord que l'OHCR a fait avec le gouvernement du Niger d'évacuation directement des centres de détention de la Libye vers le Niger en transit. Et donc ces gens vont dans des pays tiers. Pour les Soudanais, ce projet de réinstallation n'est pas encore prévu. La plupart de ces Soudanais viennent du Tchad. Ils ont été déjà reconnus comme réfugiés là-bas. Techniquement, c'est le Tchad qui les protège. Logiquement, c'est au Tchad qu'on fait la réinstallation. Malgré les efforts à leur dire qu'il faut avoir patience, qu'ils sont quand même dans un pays qui les a accueillis, ils sont dans un pays qui les nourrit, ils sont dans un pays qui leur a donné un toit, ils sont en train de vivre un moment de frustration. On les comprend, on les écoute et on gère.
Mercredi soir encore, un groupe de ces jeunes Soudanais était visible devant les locaux de la représentation du HCR à Niamey. Le Niger compte près de 200 000 personnes réfugiées sur son territoire du fait des conflits dans deux de ses voisins, à savoir le Nigeria et le Mali. Un nombre important de migrants et de personnes refoulées du fait de la situation en Libye séjournent également sur le territoire nigérien, pris en charge par les organismes spécialisés des Nations Unies. Abdulrazak Idrissa à Niamey pour VOA Afrique.
Salut les amis, ici Roger Moutou sur VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h temps universel. Au menu African Music, les anciens et nouveaux morceaux africains. Suivez-nous en direct sur Facebook Live VOA Afrique. Participez en appelant au 001-202-205-2633. 001-202-205-2633. Nous sommes aussi sur Twitter, Instagram et Facebook. Tapez juste hashtag RM Show. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h, temps universel, sur VOA Afrique. Peace Africa!
C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. À la mise en onde, Joselle Morissin, Zineb Rahman était à la console et Kiabadou vous a présenté ce journal. Ainsi va le monde aujourd'hui. On reste en contact via notre page Facebook VOA Afrique et notre site voafrique.com pour une actualité 24 heures sur 24. Excellente soirée à l'écoute des programmes de VOA Afrique.
Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. Sur 99 FM Abidjan. À Brazzaville, sur 101.9 FM. À Lomé, 99.5 FM. 92.9 FM, Bahia, Burkina Faso, et bien d'autres encore. Sans oublier sur Ondes Courtes, Le Monde Aujourd'hui, sur VOA Afrique. Et tout de suite, un programme.